Vous écoutez
RMC.
Il est 1h42 du matin en France, il est 19h42 ici dans le studio américain de l'After avec Kevin Diaz, avec Florent Gautreau, Daniel Riolo, Mathieu Rosenbaum qui est prof de maths à Polytechnique, qui est avec nous pour parler notamment data, sport américain, rapport avec le foot, et bien sûr le 32C est toujours ouvert. Les modèles de prédiction. Parce que ça, on en a vu passer plein encore avant chaque grosse compète. Alors, il y a deux trucs avant les grandes compètes. C'est soit les modèles de prédiction, soit un mec qui fout un animal quelconque et avec deux trucs, et puis l'animal va...
Ça, c'est pour rigoler.
Ça, c'est pour rigoler.
Le modèle de prédiction,
ça Mais parfois, ça marche mieux que les modèles de prédiction.
Ça se veut scientifique. On a même ça au début de la saison, maintenant. Rappelle-toi au début de la saison dernière, quand Marseille 5e, il y a Marseille 5e à la fin, et ils disent super.
Je crois.
Non, bien sûr, tu avais prévu la crise, tu avais prévu que tout ce qui allait se passer, tout ça. Voilà, c'est.
Quelle fiabilité
pour ça. On ne sait pas quand il arrive, en fait, après.
Parce que donc là, il y a effectivement un modèle de prédiction qui a dit Pays-Bas champion du monde.
Il avait donné les deux derniers vainqueurs.
Alors je crois que ça c'est un modèle très économétrique, c'est-à-dire on explique la variable être champion par d'autres variables, on fait ça,
notamment le PIB par habitant.
Voilà, donc il a eu
aucun rapport avec la performance de l'arrière-droit, quoi.
Un petit peu, parce que plus t'as de PIB, plus t'as quand même de capacité sportive, t'as des installations, t'as la possibilité forcément de...
Comment ils ont fait le Brésil pour en gagner 5
millions? C'est pas pareil, ils sont 500 millions.
C'est pour ça que les Américains ont été champions du monde 10 fois.
Non, mais c'est pas leur sport numéro 1.
Mais en fait, je suis fait d'avoir raison, ça serait assez agonant, parce que je souhaite que la France le gagne, évidemment. Mais en fait, pour les modèles plus qui sont d'habitude utilisés, en fait, c'est des modèles probabilistes qui disent, par exemple, en fait, ça simule la Coupe du Monde. Et c'est-à-dire que c'est plein de variables. C'est-à-dire, par exemple, France-Sénégal, il y a, je sais pas, il y a 7 chances sur 10 que la France gagne, 3 chances sur 10. Et puis vous refaites et vous mettez des probas comme ça de 2 à 2 partout. Et puis vous simulez plein de fois la Coupe du Monde. Et donc, avec toutes vos simulations, à chaque fois, il y aura un vainqueur différent. Donc, ce qui n'a pas de sens, c'est de dire, le modèle dit que un tel va gagner. Ça n'a aucun sens.
C'est-à-dire que quand il secoue la machine plusieurs fois, il regarde les noms qui sortent le plus souvent.
Ce qui a du sens, c'est de dire, j'ai fait ma simulation, j'ai fait 1 million de simulations de trajectoires de Coupe du Monde, et sur mes 1 million de simulations. Donc, évidemment, tous les modèles sont faux, comme on dit, mais il y en a qui sont utiles. Et sur les 1 million de simulations, voilà, on a une certaine proba que la France batte le Sénégal, une certaine proba que le Brésil batte le Maroc. On fait 1 million de simulations, on fait ça, et à la fin, on dit, sur les 1 million de simulations, dans 20% des simulations, c'est la France qui gagne. Ça a du sens. Ça a du sens sous les hypothèses du modèle, qui sont évidemment fausses, mais si c'est fait par des experts, c'est pas si fausse que ça.
On parlait des paris sportifs tout à l'heure, avec la cote un peu démesurée. On trouvait en tout cas, je crois, 1,60 pour le Brésil, et par contre plus de 5 pour le Maroc. Ouais. Alors qu'il y a des trajectoires depuis quelques années qui sont vraiment différentes, c'est-à-dire ascendantes pour le Maroc et descendantes pour le Brésil, par rapport à ce qu'on a connu en tout cas. Comment ils travaillent, les bookmakers?
Alors, point très intéressant. Donc déjà, moi, je tiens à dire que... Très derrière le Maroc, j'ai eu la chance d'avoir des places pour Brésil-Maroc parce que.
Ah oui, tu vas demain?
Parce que j'ai la chance d'être ami avec le nutritionniste de l'équipe du Maroc. Donc je remercie Julien Louis de m'avoir donné des places.
Bravo.
Et en fait, le point, c'est. Donc les paris, c'est un truc intéressant. D'ailleurs, si on regarde aussi l'histoire des États-Unis, les paris sportifs, c'est. Maintenant, c'est à peu près autorisé, mais c'était longtemps pas autorisé. En Californie, par exemple, vous pouvez toujours pas faire de paris sportifs.
Ah oui?
Donc c'est quelque chose de très particulier. Et en fait, le truc, c'est qu'un bookmaker qui tient un book de paris sportifs, en fait, il s'en fiche quasi. Je vais pas dire qu'il s'en fiche, mais il s'en fiche un peu de qui va gagner, qui va perdre. Lui, il équilibre son offre et sa demande.
Il se fait des... Il veut que le joueur perde.
Voilà, exactement. Il va équilibrer. En fait, il équilibre son offre et la demande, et il met les cotes qui vont équilibrer son offre et la demande pour garantir que lui, il va être gagnant. Donc, quelque part, en fait, le fait que la cote est bizarre, lui, il s'en fiche. En fait, il se fiche du match. Il dit juste, la plupart des gens pensent ça, parce que je pense que le Brésil, il y a un effet le Brésil, et les gens ne suivent pas trop, ils pensent que le Brésil, c'est génial. Et celui qui fait les cotes des paris.
Ceux qui parient, quand même, ils suivent le foot.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que t'as beaucoup de paris, et c'est un peu du truc de footix. La preuve, t'as expliqué sur les trajectoires, c'est vrai que ça ne mérite pas cette cote-là.
Puisque eux, leur but, c'est de gagner de l'argent, ils prennent un gros risque avec une cote aussi au Thomas.
Ça, je comprends pas. Parce qu'on voit les mecs qui envoient, ils t'envoient 1000 balles.
Moi, une cote à 6, victoire du Maroc, j'ai envie d'envoyer un billet.
Alors, si elle est à 2, j'y vais pas, en fait.
Alors, je pense qu'il y a un truc irrationnel du pari, c'est il y a combien de Brésiliens qui parient, il y a combien de Marocains.
Non, mais là, on parle d'un truc, un site de pari français.
Mais je pense un petit peu pareil. Vraiment, c'est le côté un peu irrationnel du pari. Et il y a même des gens qui en font quasiment un business. Vous connaissez Polymarket, ces choses-là. Qui cherchent à rationaliser le fait que les gens, les trucs de pari, c'est pas suffisamment précis, ou ça permet pas de gagner suffisamment d'argent. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui font des produits financiers sur les paris, justement, en train d'essayer de tirer avantage de ces erreurs de cote ou de pricing, quoi.
Revenons un peu au terrain, et puis tu restes avec nous pour en parler, Mathieu, puisque tu as forcément également un avis. Je voulais vous demander à chacun si vous aviez en tête une équipe surprise. Quand j'entends équipe surprise, j'entends une équipe qui peut faire un peu comme a fait le Maroc il y a 4 ans. Aller loin.
Mais surprise, pourquoi faire ?
Surprise, je sais pas, si tu vois Curaçao passer le premier tour, c'est une surprise.
Moi, j'ai l'équipe surprise.
Ah bon ?
J'en ai parlé aujourd'hui. Pour moi, ça peut être le Japon. Dans la dynamique de cette équipe, attention, je ne vais pas dire que je connais toute l'équipe du Japon.
Qu'est-ce qu'il est prêt à dire pour se rendre intéressant?
Non, j'ai dit. Bon, après,
le Japon, plusieurs... il est allé chercher.
Pourquoi le Japon?
J'ai fait quelques émissions ces dernières semaines. J'avais dit aussi que le Brésil qui gagne la Coupe du Monde, pour moi, c'est une surprise. On en a parlé en off hier. Pour moi, c'est une surprise s'il gagne la Coupe du Monde.
Mais c'est pour ça que je demandais la définition de surprise. Parce que moi, mon équipe surprise, mais est-ce que vous considérez que ça en serait une ou pas? C'est l'Angleterre.
Ah non.
Bah si, pour moi ça reste une petite surprise.
Mais quel niveau, quel le truc, victoire.
S'il gagne.
Football is coming home.
Ouais, exactement. Bah, pour le coup, ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas allé à la maison que
oui, j'aime le comédien.
Mais est-ce que vous considérez que c'est une surprise?
Oui, pour moi, c'est une surprise.
Bah, gagne... Qu'est-ce qui n'est pas une surprise? Alors, c'est France, Espagne et
Argentine aussi. L'Allemagne, c'est une surprise.
Non, Espagne, c'est pas une surprise.
Allemagne, tu le mets en surprise. Tout est une surprise.
Non, les vrais favoris pour moi, c'est France, Espagne, Argentine. Et pas mal de gens ont parlé du Portugal, même si je pense que ça peut être la surprise inverse.
Alors, imagine Norvège.
Bon, alors plutôt l'équipe inattendue qui va aller loin.
Redéfinissons la notion de surprise. Oui, voilà. Il y a 4 ans, le Maroc était une équipe surprise parce qu'on n'attendait absolument pas le Maroc en demi-finale.
Ok, donc surprise en demi.
Est-ce qu'aujourd'hui,
moi je te dis, Gilbert.
Disons demi, allez, ouais, quelle équipe surprise peut aller en demi comme le Maroc?
Je ne dis pas forcément demi parce que même en quart ça pourrait être, mais je pense que, mais tu as raison, demi pourquoi pas, le Maroc. Autre équipe africaine, mais je ne vais pas aller chercher loin, le Sénégal.
Sénégal, pour toi, peut faire un parcours.
Ouais, alors, est-ce que le Sénégal, où est-ce que c'est une surprise? 8e, quart ou demi?
Non, on parle de demi.
Non, bah oui, mais à partir
de quart, on a parlé de demi pour comparer avec le Maroc. Je trouve que c'est bien.
Tu nous as balancé le Japon, mais tu as les arguments.
Donc, demi, le Japon, en demi.
Non, c'est comme ça, ça lui plaît. Japon,
non, non,
il t'a bouffé les sushis à midi, d'un coup, il s'est dit ça.
Il y a un peu au Japon des absents.
Non, c'est pas mal ça. Pour une fois, mais le Japon, moi je trouve que c'est un pays qui travaille très bien, qui a pas de pression, c'est un pays qui où il y a énormément de très bons joueurs.
Tu connais 3-4 joueurs quand même?
Oui, bah oui, quand même, on connaît 3-4 joueurs. Mais aujourd'hui, moi j'aime bien cette équipe.
Tu peux nous dire comment ils jouent, quelle est la compo?
En général, le Japon c'est 4-3-3, ça va très vite sur les côtés.
C'est discipliné.
C'est très discipliné.
On est dans un sketch de mythomanie, des sommets là. Non, tu veux nous citer 3-4 joueurs?
Non, je ne vous citerai pas que 3-4 joueurs. Parce que là vous voulez venir me chercher sur un truc que.
Donc
je ne rentrerai, je ne,
Minamino
je, Non, je ne rentrerai pas. Je ne connais pas Minamino, il ne joue pas à Monaco. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, non, moi, c'est ma équipe surprise, si tu me demandes.
En tout cas, regardez les matchs amicaux du Japon. Le Japon se fait jamais rétamer en match amical. Ils ont joué des grosses équipes, donc je pense que le Japon fait. Et moi, j'ai assez peur de la Norvège. Je pense que c'est sous-estimé.
La Norvège, c'est très bien aussi.
La Norvège, on va dire.
C'est le groupe de la Norvège, France, hein.
ce qui peut les handicaper, c'est s'ils jouent à grosse chaleur. J'ai l'impression qu'ils vont pas supporter.
Ah, cliché, comme sur la discipline.
Comme quand ils avaient parlé de l'Allemagne pour Top Moller, les clichés ont la dent dure.
Je remarque quand même, tu vois, les deux équipes qui sont dans le groupe de la France, moi je suis assez d'accord sur à la fois le Sénégal et la Norvège.
Moi je pense que la France a un groupe très dur.
Absolument. Sauf que tu peux sortir les trois, parce que les trois peuvent se qualifier avec la France. Et juste en termes de surprise, pas jusqu'en demi. Moi, j'aime beaucoup l'Équateur.
C'est mon équipe sur
l'Équateur.
Pourquoi pas demi? On a dit que c'était demi.
Non, on n'a pas dit demi.
Les critères
pas évolués selon l'équipe. L'Équateur, on va y revenir, mais.
Pourquoi c'est une belle surprise?
Il y a 3 joueurs.
Vérification faite, Kevin Diaz est vraiment un spécialiste parce que le Japon, ça joue à 3 derrière.
Ça dépend.
Et il est mytho depuis le début. T'as pas compris, il était mytho. Il connaît pas 3 joueurs, mais il te raconte ça.
Ça dépend. Il croit qu'il connaît toutes les équipes.
La défense centrale de l'Équateur, tu l'as?
Non. Ordóñez Pacho.
Comme ça, je les connais bien sûr.
Ordóñez Pacho, d'Arsenal.
Capier.
Eh oui, c'est du lourd ça.
Capier, pas le gars qui était dans l'équipe de Lance Armstrong. Hein.
Valencia, capitaine.
Le gars d'Arsenal.
Incapi.
Après, le Maroc, faut voir avec leurs apps. Ils ont quand même des absents.
Sans oublier Caicedo au milieu.
Oui.
Non, mais l'Équateur qui est deuxième des éliminatoires.
Tu sais pourquoi ça, je suis d'accord avec toi,
marathon.
Gilbert, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il faut être solide, à mon avis, dans cette Coupe du Monde pour aller loin. Il faut être solide et l'Équateur est solide.
Surnom d'Équateur, Gilbert? Toi qui aimes bien les surnoms?
L'Équateur, c'est. Ah, attends. Les Condors, non? Non, c'est pas ça.
Mais on n'a pas le surnom de l'Équateur?
Ah, je l'ai plus.
Les Cafeteros.
Les Cafeteros, c'est les Colombiens. La Vino Tinto, c'est le Venezuela.
C'est le Venezuela, Vino Tinto.
Et le surnom des Japonais, vous l'avez?
Samouraï.
Très bien. Il ne l'avait pas.
Pas
les samouraïs samouraï bleus.
C'est la tri, l'Équateur.
Ah, ouais. Parce que tout. Bon, comme le Mexicain, c'est la tri aussi, le Mexicain.
La tri. La tricolore ou la banana mécanica, on m'a dit aussi.
La banana mécanica.
Son nom plus ancien et plus folklorique lié à l'importance historique de la production de bananes dans l'Équateur, inspirée de la maquina utilisée pour certaines grandes équipes sud-américaines.
J'aime bien, donc ce sera la banane mécanique pour moi. Un peu Kevin Diaz quand il parle du Japon, c'est une belle banane mécanique.
Mais toi, Daniel, t'as pas d'équipe?
Non, je ne crois pas à ce genre de choses, moi.
D'accord. Merci, là, Daniel.
Je ne crois pas.
Là, je t'explique. On ne demande pas de croire un truc, on demande de prendre position.
Je ne rentre pas dans ce jeu de naïf à imaginer des surprises.
Est-ce que tu penses que la Bosnie peut être une surprise?
Non, pas du tout. Je ne sais même pas ce qu'ils font là. Ils méritent absolument pas d'être
Canada,
là, déjà.
Son équipe type, c'est le Canada.
Qu'est-ce qu'ils foutent là, la Bosnie? De toute façon, on a bien vu ça.
Et le joueur surprise pour Wally Lacharchour, c'est usurpé.
Et ils se sont fait promener par les Canadiens, déjà.
Moi, je m'attendais à ce que Daniel nous dise l'Uruguay de Bielsa.
Ben non, j'aurais bien aimé, mais je crois pas trop que ça puisse être.
Et si l'Écosse faisait quelque chose?
Non, non plus.
Scott McTominay.
Non plus.
L'Autriche est solide, l'Autriche.
Non plus. Ah, et c'est pas, là, on n'est pas dans le cliché, là. Autriche surprise, il n'y a pas de cliché.
Il a une équipe surprise. Tiens, GPT est en train de lui sortir 20
équipes surprises. J'essaie de trouver des équipes surprises, l'Écosse, avec Scott McTominay.
Alors, excusez-moi, moi, je m'attendais quand même à ce que tu me sortes le Portugal.
Ah, c'est surprise, le Portugal. Il y a des joueurs stars à tous les faces, c'est surprise, le Portugal. Ah
bah, moi, donc, je le dis depuis trois ans.
Surprise.
Mes compatriotes le prennent mal. Moi, j'ai peur que le Portugal soit une mauvaise surprise.
L'Angleterre, j'ai posé la question. Je vous ai demandé, est-ce que vous considériez que c'est une surprise? À vous de me le dire. C'est tout.
On a fait l'équipe surprise. Maintenant, je veux l'équipe bide.
Pays-Bas. Moi, je vais contrôler les modèles statistiques. Voilà, je t'ai dit Pays-Bas.
Pays-Bas, t'y crois pas une seconde?
Non. Ouais, je crois pas pour aller, comme tu dis, pour aller loin, quoi.
D'accord.
Parce que là, tout le monde va sortir des poules, on est d'accord?
Oui, tout le monde sort des poules, oui.
Mm. Oui, mais l'équipe bide, c'est l'équipe qui, normalement, qui doit être en 2018.
C'est Espagne en 2018, Espagne en Russie?
Voilà.
Le bide, quoi. L'équipe ou l'Allemagne, les deux dernières Coupes du Monde.
Mathieu, je précise qu'on ne peut pas citer l'Italie, parce que je vois que tu cherches.
Non, mais l'Italie était dans un groupe de qualification très dur avec la Norvège.
Exactement. Si c'était qualifié, c'était favori. Là,
mais la Bosnie, surtout, ils ont eu du mal.
Et c'était favori, je vous le dis, c'était demi-finale minimum.
Ça joue, la Bosnie, ça joue.
Moi, j'ai une équipe bide, c'est la Croatie.
Ce serait pas bide, ils sont en fin de piste. Ils sont en bout de piste. Qu'est-ce que bide, ça va être?
Malgré tout,
ils sont en bout de piste.
C'est facile, ça.
Rien à voir, Gilbert, mais je propose pour les prochains jours un petit thème sur les plus beaux moments de la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon.
Bon, donc là, on est vraiment au bout du bout des thèmes. C'est que les surprises, c'est en train de
virer.
Ils ont pas le style. Et là, maintenant, on va faire le textile sur les maillots.
Le style, c'est important.
T'as remarqué que la Bosnie, tellement ils sont bidons. Ils sont venus avec un maillot, mais c'est un faux maillot. Là, j'étais à l'épicerie du coin, tellement il était transparent.
Non, je te trouve
mauvais. Il était transparent, le maillot.
Je te trouve rancunier.
On voyait
rancunier sur la Bosnie.
L'Italie avait un beau maillot, mais on
exactement. Alors que la Bosnie, ils avaient un maillot. C'est du papier. C'est du papier.
C'était la fameuse marque Kelme.
Tellement ils avaient même pas prévu d'aller à la Coupe du Monde. Ils avaient un faux maillot d'une fausse marque.
Ce maillot marathon de l'Équateur.
Je sais même pas où ils l'ont acheté.
Ils
préfèrent
être à la Coupe du Monde avec un mauvais maillot que pas à la Coupe du Monde avec un beau maillot.
Et le bide Espagne, vous n'y croyez pas du tout?
Le bide Espagne?
Parce que.
Ah bah moi, tout ce que tu dis, je vais y croire. Attends, tu fais des calculs.
Non, c'est sans calcul, mais c'est un feeling de ce truc. C'est juste un feeling.
Ça dépendra de l'état de forme de la
Ligue 1. C'est la grosse affaire.
Après, ils ont quand même mis le terrain extraordinaire.
Bien sûr. Mais ça va être ce Yamin Yamal, il est là.
Tiens, en surprise, je vous annonce, USA en quart.
Ah ouais, comme ça.
On est là, USA en quart, c'est parti.
Très beau maillot des
États-Unis. Et ça permet un enchaînement sur USA Paraguay qu'on va aller voir ce soir.
Exactement.
Et ça permet aussi si on trouve un resto.
Maxime Chanot a le nouveau maillot des USA
avec un
et il va arriver juste après.
Très bien, exactement. Trump a appelé Pochettino.
C'est normal.
Pour lui mettre la pression.
Et Pochettino a dit merci monsieur le président de votre soutien.
Est-ce qu'il a dit
et là-dessus, guys, c'est quart de finale.
Est-ce qu'il a dit guys, make America great again?
Non, il a dit on a acheté l'arbitre. T'inquiète.
Alors, en matière de foot, tu peux pas trop dire great again parce qu'ils ont rarement été great.
Ouais, mais lui les mythos, ça lui fait pas peur.
Une dernière information, Argentine. C'est vrai que les Argentins, il y a plus de 100 000 Argentins qui vont venir.
À l'Argentine, là je suis pressé qu'ils rentrent dans la compète. C'est mon équipe
Montiel,
du mondial.
Bernard Montiel, il est là ou pas?
Mon équipe du mondial. Montiel,
peut-être 100 000 Argentins. Et l'Argentine a partagé.
Mais 100 000 Argentins, comment ils font pour payer? Enfin, tout est super cher aux États-Unis. Ils viennent comment en fait?
Ils logent à 7.
C'est Milei, ils signent des chèques.
C'est pas comme si l'inflation. C'est 100 000. Un truc.
Non, mais justement. Tu sais qu'à l'ambassade argentine, il y a eu un assado géant.
Oui.
Hier, j'ai été invité, je n'ai pas pu y aller.
Moi aussi.
Ah, mais nous, on n'était pas invités.
Non, vous n'étiez pas invités. Mais nous,
on bossait, malheureusement. Sinon, on serait allé à la salle.
Je vais appeler Omar Da Fonseca tout de suite.
Les Argentins, ils ont fait un truc. L'Argentine, l'État argentin a partagé avec l'administration américaine une liste de 13 000 pères de famille qui sont en défaut de paiement de pension alimentaire. Ils ont demandé aux Américains, ces 13 000 là, ils ne payaient pas leur pension alimentaire, interdit de territoire. Pour les empêcher de venir supporter
Alors que les mecs, ils ont économisé la pension alimentaire pour aller à la Coupe du Monde.
Peut-être, mais du coup, ils ne pourront pas.
Ils ont quand même gratté. C'est horrible.
Non, c'est... Voilà ce qu'ont fait les Argentins.
Ok, très bien.
Voilà. Eh ben, écoute.
Vous voulez que je cite trois Japonais ou c'est bon?
Il pousse le mytho jusqu'au bout.
Vous avez vu avant la Coupe du Monde la petite vidéo de Nagamoto qui pleure parce qu'il apprend qu'il est sélectionné? Vous l'avez vu celle-là?
Écoute-moi.
Bah moi je l'ai vu.
USA quart de finale, tu l'auras entendu.
Ici,
monsieur.
Mathieu, merci d'être venu nous voir.
Gilbert, je me permets juste de faire un gros bisou à mon fils, fan du PSG, un peu PSGique sur les bords, mais je lui ai promis.
Nous aussi on l'embrasse. Moi j'ai pas.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Eyal.
Par contre, dis-moi qu'il est bon en maths.
Pour l'instant, ça va.
Ok.
Quel âge il a?
Il a 9 ans.
Ah, 9 ans normalement.
Ah, mais il est déjà en seconde. Hein.
9 ans, il ne faut pas te carrer. Mais moi, j'étais encore bon en maths.
Il est un peu en avance, mais il va passer le bac à la fin de l'année.
Mais il connaît très bien son historique des Coupes du Monde, des meilleurs buteurs des Coupes du Monde, etc.
Il connaît le premier buteur de la Coupe du Monde.
Ah oui, ça, il te le dirait.
Est-ce qu'il faut avoir une bonne mémoire pour être un mathématicien?
Je pense que pas parce qu'il faut se rappeler plein de choses, mais parce que ça traduit certaines aptitudes.
Ouais, on est d'accord.